Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nainar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans cette biographie intellectuelle et politique, Arnaud Tessier propose moins un récit linéaire de la vie de Charles de Gaulle qu'une enquête sur le ressort intime de son action. Le titre désigne la tension centrale de l'ouvrage, une angoisse durable devant le déclin français, la guerre, la division sociale et les effets déshumanisants du progrès, converti en exigence de grandeur nationale. En repartant notamment de la certaine fierté anxieuse évoquée par De Gaulle dans ses mémoires de guerre. Tessier relie la formation du jeune officier, le chef de la France libre et le fondateur de la Ve République. Il éclaire ses références intellectuelles, en particulier Charles Péguy et Henri Bergson, ainsi que son rapport sélectif à l'héritage monarchique. L'objectif n'est donc pas de sanctifier le général, ni de réduire ses décisions à un tempérament personnel, il s'agit de comprendre comment une vision de la France, de l'État et de la condition humaine a organisé une trajectoire politique exceptionnelle, tout en rencontrant les limites d'une société en profonde mutation. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'angoisse comme principe d'interprétation de l'action gaullienne, le choix d'angoisse donne à la biographie sa perspective distinctive. Chez Tessier, il ne s'agit pas d'attribuer au général une fragilité psychologique au sens clinique, ni d'expliquer mécaniquement chaque décision par un trait de caractère. L'angoisse désigne plutôt une inquiétude historique et civilisationnelle, la France peut décliner, être vaincue, se déchirer intérieurement ou perdre sa maîtrise face aux forces techniques et économiques. La formule de fierté anxieuse, issue des mémoires de guerre, permet de tenir ensemble l'attachement fervent à la nation et la conscience de sa vulnérabilité. Cette grille rend intelligible la continuité que l'auteur cherche entre des épisodes habituellement étudiés séparément, la réflexion militaire de l'avant-guerre. Le refus de la défaite en 1940, le combat pour la légitimité nationale, puis la reconstruction institutionnelle sous la Ve République. La grandeur n'apparaît pas comme une pose rhétorique ou un simple nationalisme de prestige. Elle est la réponse active à la possibilité de l'abaissement. Cette approche aide aussi à comprendre le style gaullien goût des décisions tranchées, recherche de l'unité, mise en scène de la continuité française et méfiance envers les mécanismes politiques susceptibles de dissoudre l'autorité. Tessier présente ainsi une cohérence intellectuelle sans effacer les contradictions ni les échecs de l'homme d'État. Deuxièmement, une pensée nourrie par Péguy, Bergson et la conscience du déclin. L'ouvrage insiste sur la formation intellectuelle de De Gaulle afin d'éviter de le figer dans l'image d'un militaire isolé ou d'un fondateur d'institutions uniquement pragmatiques. Tessier souligne l'importance de lecteurs et d'auteurs qui ont donné une profondeur morale à sa vision du politique, au premier rang desquels Charles Péguy et Henri Bergson. De Péguy, De Gaulle partage notamment la perception d'une civilisation menacée par le renoncement, le matérialisme ou le nihilisme, mais aussi l'exigence de ne pas se détourner du réel. Cette double orientation est essentielle, la mystique ne doit pas remplacer l'action quotidienne, elle doit l'inspirer. La référence à Bergson est claire, plus largement, une sensibilité aux forces vivantes de l'histoire, difficilement réductibles aux appareils, aux doctrines fermées ou aux intérêts immédiats. Tessier situe également De Gaulle dans une génération inquiète de la place de la France depuis la fin du XIXe siècle. Son patriotisme ne naît donc pas seulement des catastrophes du XXe siècle, il s'enracine dans une longue conscience du recul relatif du pays face aux autres puissances. Cette généalogie intellectuelle permet de comprendre pourquoi la politique gaullienne associe indépendance nationale, volonté de modernisation et refus de soumettre entièrement l'action collective aux catégories économiques. Elle met aussi en évidence une pensée plus littéraire et philosophique que ne le suggère l'image d'un dirigeant exclusivement institutionnel. Troisièmement, l'État fort. Instrument d'unité nationale plutôt que simple préférence administrative, Tessier analyse l'État gaullien comme une réponse à des crises de souveraineté et de fragmentation. Pour De Gaulle, l'autorité publique ne vaut pas par elle, même elle doit rendre possible la durée nationale. L'efficacité de la décision est la préservation d'un intérêt commun au-dessus des rivalités partisanes. Cette conviction éclaire son hostilité aux impuissances gouvernementales qu'il associe au régime des partis, comme l'architecture de la Ve République. Conçue pour assurer la stabilité de l'exécutif et une relation directe entre le chef de l'État et le pays, l'analyse ne confond toutefois pas gaullisme et nostalgie monarchique. De Gaulle pouvait admirer la continuité et la grandeur de la monarchie française sans adhérer au royalisme de Charles Maurras. Son projet demeure républicain, la légitimité doit être rattachée à la nation et peut être sollicitée par le référendum. Cette nuance est décisive pour comprendre sa conception de l'autorité, à la fois verticale et fondée sur l'appel au peuple. L'État apparaît alors comme une cathédrale d'efficacité dans l'interprétation rapportée par Tessier, mais cette image comporte une ambivalence. La centralisation et l'exigence d'unité peuvent protéger le pays dans les périodes de crise. elle risque également de se heurter à la pluralité croissante des intérêts, des aspirations et des rythmes sociaux. Le livre fait de cette tension un élément central, non un détail secondaire de l'héritage gaullien. Quatrièmement, guerre. Division sociale et technique, les menaces réunies dans une même inquiétude, l'angoisse examinée par Tessier, dépassent largement la seule expérience militaire. Même si les deux guerres mondiales et la défaite de 1940 en constituent des repères fondamentaux. De Gaulle perçoit la guerre sous plusieurs formes: affrontements entre États, menaces de guerre civile, désagrégation du corps social et affaiblissement de la volonté collective. Cette extension du diagnostic explique son souci constant de l'unité nationale. L'indépendance extérieure n'a de sens dans cette perspective que si la communauté politique conserve une capacité interne à se gouverner et à se reconnaître. L'auteur met aussi en avant les inquiétudes gaulliennes devant les conséquences du progrès scientifique et technique. Il ne s'agit pas d'un refus simpliste de la modernisation. De Gaulle a voulu doter la France de moyens industriels, scientifiques et stratégiques à la hauteur de son rang. Mais la technique devient problématique lorsqu'elle subordonne l'homme, désorganise les liens collectifs ou réduit la politique à une administration des performances. Cette réserve rejoint sa critique de l'économisme et du consumérisme évoquée par les commentateurs de l'ouvrage. Le livre invite donc à ne pas opposer artificiellement modernisation et tradition chez De Gaulle. Son ambition est de maîtriser le changement plutôt que de le subir. Cette position explique à la fois son volontarisme d'État et son inquiétude devant une société dont les transformations culturelles échappent au cadre institutionnel établi. En dernier lieu, 1968-1969, la limite d'un projet de maîtrise politique de la société, la fin du parcours gaullien occupe une place importante dans la démonstration, car elle révèle les limites de la réponse par la grandeur et l'autorité. Tessier ne présente pas De Gaulle comme un homme ayant tout anticipé. Mais 1968 manifeste précisément la difficulté du pouvoir à saisir des aspirations sociales et culturelles qui ne se laissent pas ramener aux crises politiques classiques. Le général pouvait identifier les effets corrosifs du consumérisme, de l'économisme ou de la domination technique. Il ne parvenait pas pour autant à intégrer pleinement les nouvelles formes de contestation, les attentes de libéralisation et la défiance envers les hiérarchies. Le référendum de 1969, perdu après l'association d'une réforme du Sénat à la régionalisation, devient ainsi plus qu'un accident de procédure. Il marque l'échec d'une tentative de renouveler le lien entre institutions, territoires et participation. Fidèle à sa pratique, De Gaulle transforme le vote en épreuve de confiance et choisit de partir après le refus populaire. Tessier y voit le retour de l'angoisse, non seulement celle d'un chef battu, mais celle d'un homme confronté à la transformation d'une société qu'un État fort ne peut plus ordonner sans friction. Cette séquence donne au livre sa portée critique. Elle empêche de lire le gaullisme comme une recette institutionnelle transposable telle qu'elle et oblige à penser l'écart entre une conception exigeante de l'unité nationale et la dynamique d'une démocratie pluraliste. En conclusion, Charles de Gaulle, l'angoisse et la grandeur s'adressent en priorité aux lecteurs d'histoire politique française, aux étudiants en institution et aux personnes qui souhaitent dépasser l'alternative entre célébration mémorielle et rejet sommaire du gaullisme. Il sera particulièrement utile à qui connaît déjà les grandes étapes de la vie du général, mais cherche à comprendre la logique qui relie la France libre. La souveraineté nationale, l'état de la Ve République et la crise finale de 1968-1969. Son bénéfice intellectuel tient à la mise en relation de décisions politiques concrètes avec une vision plus vaste de l'histoire, de la civilisation et de la condition humaine. Le lecteur y gagne une interprétation du gaullisme comme effort pour transformer l'inquiétude collective en capacité d'action et non comme simple doctrine de l'autorité. Par rapport aux biographies chronologiques ou aux ouvrages strictement institutionnels, le livre se distingue par son attention au soubassement moral et intellectuel du personnage. Tessier ne se contente pas de retracer une carrière, il étudie la formation d'une sensibilité, ses références littéraires, ses ambitions et ses impasses. La place accordée aux inquiétudes de De Gaulle devant la technique. L'économisme et la mutation sociale rendent également cette lecture plus ample qu'un portrait centré sur la guerre ou sur la fondation de la Ve République. Cette profondeur interprétative constitue son principal apport, tout en invitant à discuter les tensions durables entre unité, autorité et pluralisme démocratique. Si vous souhaitez soutenir Arnaud Tessier, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.